Il est 6h.
On profite de pouvoir être assise à table, on est vraiment trop contente d'être posée dehors.
Les relations sociales nous manquaient, enfin un peu de vie.
Et enfin, un début de retour à la normale en Italie. Les terrasses de bars, de restaurants, mais aussi les musées et les cinémas ont rouvert dans les trois quarts du pays. Dans ce journal, à l'approche des élections régionales et départementales, l'analyse de données se mêle aux campagnes électorales. L'économie britannique plombée par le Covid et par le Brexit. Et puis François Pinault lance une bouteille à la mer et appelle le monde du vin à sauver les Girondins de Bordeaux.
À suivre, le journal des sports d'Axel May et mon invité inattendu qui nous replonge donc dans les coulisses de la révolution télé-réalité en France. Loft Story sur M6, c'était il y a 20 ans tout juste.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Comme un air de liberté et comme une lueur d'espoir pour nous, de l'autre côté de la frontière. Après 6 semaines de confinement, l'Italie a rouvert ses bars et ses restaurants hier, ainsi que ses cinémas et ses musées. Un moment très attendu par les locaux qui n'ont pas attendu pour en profiter. À Rome, le reportage de notre correspondante Blandine Hugonnet.
Le centre de Rome s'est animé immédiatement dès la réouverture des restaurants et des bars. Claudia et Luisa sont venues fêter cette reprise avec un spritz en terrasse.
On profite de pouvoir être assise à table, on est vraiment trop contentes d'être posées dehors.
Les relations sociales nous manquaient, enfin un peu de vie.
Les restaurants ont rouvert jusqu'au soir, mais les lieux culturels aussi. Pendant que certains Romains profitent de cette dolce vita en extérieur, d'autres préfèrent retrouver le plaisir d'aller voir un film sur grand écran, comme Maria qui fait la queue devant un petit cinéma, enthousiaste à l'idée de retrouver les salles obscures.
Le cinéma m'a tellement manqué. Retrouver un peu de vie culturelle, c'est une façon de célébrer un nouveau départ. Ça suffit d'avoir peur, on n'en pouvait plus.
Mais après le cinéma ou un restaurant en terrasse le soir, retour à toute vitesse à la maison, le couvre-feu de 22h est maintenu au niveau national et les contrôles de police sont renforcés alors que le nombre de morts en Italie est toujours élevé, environ 300 par jour. Pas question de provoquer un rebond d'épidémie avant l'été. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1.
En France, Emmanuel Macron a précisé les contours du calendrier du déconfinement avec une réouverture par étapes des restaurants à partir de la mi-mai et un possible allègement du couvre-feu. Le chef de l'État devrait détailler son plan aux Français d'ici la semaine prochaine.
Sur le front de la vaccination, un peu plus de 14 millions de personnes ont reçu une première injection, soit plus de 20% de la population totale.
Invité du 20h de TF1 hier soir, Bernard Tapie a taclé ceux qui refusent de se faire vacciner. L'ancien homme d'affaires, toujours très affaibli par sa maladie, appelle à une mobilisation générale.
Si tu te vaccines pas parce que tu veux pas et que t'en crèves, t'as choisi. Mais là, c'est tu fais crever les autres. Car tant qu'on n'aura pas un nombre de vaccinés qui permettra d'enrayer la pandémie, on fait mourir les autres. Donc, c'est pas seulement un combat pour soi. Merde, c'est un combat d'équipe. Chaque citoyen doit comprendre qu'il est un relais par rapport aux autres. Il faut absolument se faire vacciner. Je vous assure.
Bernard Tapie, invité de Gilles Boulot dans le journal de 20h sur TF1. Le syndicat national des pilotes de ligne d'Air France appelle ses pilotes non vaccinés à refuser les vols vers les destinations dites à risque, comme l'Inde, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud. Le droit de retrait se justifie pleinement, selon le SNPL.
La crise du Covid qui s'invite aussi dans les campagnes électorales. Nous sommes à 2 mois des régionales, à 1 an de la présidentielle et les candidats vont devoir adapter leur méthode.
Avec l'utilisation beaucoup plus massive de logiciels électoraux. C'est ce que propose par exemple Teradata, une start-up française qui permet aux candidats d'analyser des millions de données pour les aider à mieux cibler leur campagne. Jean-Rémy Baudot.
À l'écran, une carte. Un prétendant à une élection veut connaître le bilan du candidat sortant, par exemple en matière de santé. Léo Pouget, cofondateur de Teradata.
Cette carte, elle va vous permettre de distinguer les territoires dans les 5 prochaines années qui n'auront pas assez de médecins. Le top des communes qui sont les plus carencées en matière de soins et le top des communes qui s'en sortent le mieux.
Dette, transport, scolarité, des cartes ultra précises grâce au big data, des millions d'informations issues des organismes publics.
Ce sont des tableurs de 100 000 lignes, de 100 000 colonnes. Nous avons fait pari de les cartographier à l'échelle de territoires aussi précis que celui du quartier de 2000 habitants.
Cette précision, l'entreprise la croise avec les résultats récents des bureaux de vote. Objectif, savoir presque rue par rue qui vote pour qui. Un outil précieux pour cibler un message politique Paul Hatt, l'autre cofondateur de TerraData.
D'une rue à l'autre, on est capable d'adapter son tract en fonction des sujets qui intéressent les gens. On va adapter les messages quand on fait du porte-à-porte, les SMS qu'on envoie, les emails qu'on envoie en fonction des élections précédentes et puis du diagnostic qu'on a fait sur les déserts médicaux, sur les transports.
Depuis son logiciel, pour accompagner les futures campagnes, un impératif en temps de Covid, sans meeting ou poignée de main sur les marchés pour convaincre les électeurs.
Un reportage signé Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
6h05 sur Europe 1, le Parlement européen vote aujourd'hui sur l'accord de commercial post-Brexit, accord définitif cette fois-ci entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
4 mois après sa conclusion, alors même si la pandémie brouille les pistes, il est clair que le Brexit a déjà un impact négatif sur l'économie britannique. Anaïs Cordoba, vous êtes notre correspondante outre-Manche. Expliquez-nous déjà comment ça se traduit pour les entreprises.
Eh bien, ça veut dire une montagne de paperasse et des coûts plus élevés pour commercer avec l'Union européenne. Les nouvelles règles sont particulièrement strictes pour le secteur de l'agroalimentaire qui est touché de plein fouet. Les ventes de lait et crème vers l'Europe ont chuté de 96%, celles de bœuf et de poulet de 80%. Tout secteur de l'économie confondu, 50% des exportateurs seraient en difficulté depuis janvier et ce sont clairement les petites entreprises qui souffrent le plus. Willa Latam dirige une petite société de vente de porcelaine fine. Depuis janvier, ses ventes vers l'Europe se sont effondrées à cause des coûts de livraison qui ont doublé et des obstacles administratifs.
Envoyer un colis vers un pays européen, ça me prend une heure facilement, alors qu'avant, ça ne prenait pas plus de 10 à 12 minutes. Mes commandes n'arrivent pas tout le temps à destination. J'ai des colis envoyés début janvier qui n'ont toujours pas quitté le pays. On dirait que les transporteurs ignorent les colis venant du Royaume-Uni. C'est impossible de gagner de l'argent dans ces conditions. Je voudrais garder certains de mes bons clients, mais les choses vont devoir changer pour rendre tout ça viable. Quoi qu'on pense du Brexit, ceci est une urgence.
Et concernant Anaïs Cordoba, l'économie globale.
Eh bien, pour le moment, la pandémie masque l'étendue de l'impact du Brexit. Mais selon des estimations officielles, il a déjà réduit le PIB de 1,4%. On est donc loin de la catastrophe annoncée par certains au moment du référendum. Mais plusieurs experts s'accordent à dire que sur le long terme, le Brexit pourrait être plus dommageable pour l'économie que la pandémie.
Les précisions d'Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni. La France insoumise, emmenée par Jean-Luc Mélenchon, demande au procureur de Paris d'engager des poursuites contre les auteurs de la tribune publiée dans Valeurs Actuelles la semaine dernière. À l'intérieur, des militaires appelaient le président à défendre le patriotisme, se disant prêts à intervenir pour, je cite, « protéger les valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national ».
On termine avec les sports. Sophie Echen et Axel May nous en parlaient dans le Journal des Sports tout à l'heure. Cette initiative originale pour tenter de sauver les Girondins de Bordeaux dans la tourmente après l'abandon de leur propriétaire américain, King Street.
Et François Pinault, propriétaire d'un grand cru, monte au créneau et appelle les grands vins du Bordelais à se mobiliser pour sauver le club. Lui ne peut pas racheter les Girondins car il est déjà le propriétaire du Stade Rennais. Alors il demande à ses amis d'organiser un projet de reprise, un projet local qu'il se dit prêt à soutenir. Damien Mestre.
Comme tous les Français amoureux du football, je suis ému à l'idée de voir les Girondins de Bordeaux en risque de disparaître. C'est comme ça que François Pinault, troisième fortune française, débute sa lettre. Une lettre qu'il adresse aux propriétaires de Grand Cru. C'est eux qui sont, dit-il, la force économique locale capable de sauver le club. Club mythique qui permet le rayonnement de la ville et même de participer, ce sont ces mots, du contrat social dans la région. Il faut donc sauver les Girondins. Mais alors, est-ce que les propriétaires de vin sont prêts à le suivre ? Eh bien Bernard Magret, véritable pape du Bordelais avec ses 40 châteaux et ses 4 grands crus classés, est lui déjà séduit par l'idée.
Moi, je pense que c'est très positif, oui. François Pinault est mon ami, donc je ne peux qu'être à côté de lui dans ce moment-là. Et puis comme il connaît bien le football, donc moi j'ai décidé de le faire, c'est de l'intérêt de tout le monde.
Reste quand même à connaître les modalités exactes, le détail des montants à investir. Alors que le fonds d'investissement King Street avait lui racheté le club en 2018 pour près de 100 millions d'euros.
Et puis on vous racontait hier matin sur Europe 1 la dernière édition des Oscars. Eh bien l'audience de la cérémonie s'est effondrée avec moins de 10 millions de téléspectateurs aux États-Unis, soit une chute de plus de 58% par rapport à l'année dernière. Déjà en 2020, la pandémie avait bouleversé les Oscars, attirant 23,5 millions de spectateurs, ce qui était déjà le pire score enregistré par l'événement.
Effectivement, 10 millions de téléspectateurs sur 300 000 habitants aux États-Unis, ça fait vraiment pas grand-chose. Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal, il est 6h10. Et Axel May, donc cette première demi-finale de la Ligue des Champions, demi entre clubs rebelles ce soir.
Oui, le Real Madrid et Chelsea, deux des 12 équipes qui voulaient créer une compétition dissidente, une Super League fermée sur le modèle de la NBA, le basket américain, et qui ont dû y renoncer face au tollé que cela a déclenché. Et bien donc, le Real Madrid et Chelsea s'affrontent ce soir à 21h, première demi-finale aller de la Ligue des Champions, et Raphaël Varane, pièce maîtresse de la défense madrilène, reconnaît à demi-mot que la situation n'est pas simple.
On a une fin de saison qui est excitante et on est vraiment concentré là-dessus. Après, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de discussions autour du football. Je pense que le monde du football doit se montrer plus uni que jamais face à l'adversité. Et me concernant, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est difficile de redémarrer, de remettre les moteurs en route. Mais voilà, je pense que j'ai bien travaillé.
Raphaël Varane, qui a été contaminé par le Covid au début du mois. L'international français répondait à Henri de la Guérie. L'autre demi-finale opposera demain le PSG à Manchester City. On aura largement l'occasion d'en reparler.
En effet, le football d'en bas, entre guillemets, Axel May, la Coupe de France.
France Télévisions, qui diffuse une affiche par tour, a choisi la demi-finale entre Rumilly, le petit poussé de Haute-Savoie, et Monaco. Ce sera le 13 mai, c'est ce qu'on a appris hier. Laissant donc à Eurosport, c'est-à-dire une chaîne payante, la première demi-finale, Montpellier-PSG. Une belle exposition pour les amateurs de Rumilly qui évoluent en National 2.
La quatrième division. Le handball à présent et deux matchs à ne pas rater pour les Bleus.
Les deux derniers matchs de qualification à l'Euro. La Serbie dans le groupe de la France est déjà qualifiée pour le rendez-vous européen en janvier prochain. Les Bleus, eux, doivent battre les Grecs pour rejoindre les Serbes. Il y a un match aller, un match retour. Un match qui survient après le Mondial de janvier, après le tournoi de qualification olympique, c'était en mars, et donc avant les JO. Guillaume Gilles, le sélectionneur.
Oui, cette semaine de qualification à l'Euro 2022, elle arrive un peu au milieu de nulle part, parce que se profile déjà la préparation des Jeux Olympiques en fin de saison. Et en même temps, cette semaine-là, elle est essentielle, parce que si on la rate, l'équipe de France ne sera pas à l'Euro 2022 en janvier prochain.
Le sélectionneur de l'équipe de France de handball masculine, match aller ce soir en Grèce, match retour à Créteil dimanche.
On termine avec la première partie de saison qui s'est achevée, Axel, en cyclisme.
Avec le triptyque des Ardennaises, Amstel, Flèche, Liège. Dimanche, le petit David Godu a fini pour la première fois sur le podium d'un monument, un troisième de Liège, Bastogne-Liège, derrière son compatriote Julien Alaphilippe et le vainqueur slovène Pogacar. Auparavant, le grimpeur de la formation Groupama FDJ avait remporté une belle étape du Tour du Pays Basque. À 24 ans, il sera le chef de file sur le Tour de France de la formation dirigée par Marc Madio, qui en dit évidemment le plus grand bien.
Il a un moteur comme il n'y en a pas beaucoup, hein, donc il ne fait pas de faute, il est dans son métier, il est appliqué. Il lui a fallu un peu plus de temps qu'à d'autres pour s'adapter chez les pros, parce qu'il y avait des lacunes, il a fallu les combler. Mais aujourd'hui, on arrive pas mal.
Marc Madio, une carrière prometteuse qui s'annonce pour David Godu, une autre qui se termine brutalement en rugby. L'ailier international du Stade Toulousain, Johan Huger, blessé ce week-end en top 14, a été opéré d'une rupture du tendon d'Achille. Âgé de 33 ans, il avait annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière en fin de saison. Elle s'arrête donc dès le mois d'avril, alors que le Stade Toulousain est toujours en lice pour le doublé, à savoir Coupe d'Europe et Championnat de France.
Merci beaucoup Axel May. Europe 1. Il est 6h14 en ce 27 avril 2021. Et les plus fans de télé-réalité d'entre vous se souviennent peut-être de ce jour. Il y a 20 ans et un jour, le 26 avril 2001, débarquait la toute première émission du genre à la télé française. J'ai nommé évidemment Loft Story.
11 célibataires coupés du monde, filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24.
Et celui que vous entendez faire l'annonce dans ce générique, qui a, qu'on le veuille ou non, participé à une certaine révolution de la télé française, est mon invité inattendu ce matin. Bonjour.
Bonjour. Je suis Jean-Marc Lancelot.
Bienvenue sur Europe 1, la voix donc de Loft Story, en tout cas de ce générique précurseur il y a 20 ans. On va revenir sur ce que ça a changé pour vous et pour le paysage audiovisuel français aussi et surtout. C'est dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Mon invité inattendu ce matin fut donc la voix de la toute première émission de télé-réalité en France, Loft Story sur M6. C'était il y a 20 ans tout juste, 26 avril 2001. Avant de revenir sur ce que ça a changé cette première dans le paysage télé français, déjà comment vous, Jean-Marc Lancelot, qui êtes comédien, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé associé à cette aventure ?
Je crois que c'est la chaîne M6 qui, à l'époque, avait dû donner mon contact à la maison de production qui donc produisait le Loft. Donc c'était Arthur qui dirigeait cette maison de production. Et ça s'est fait très rapidement. Ils m'ont contacté au bout de quelques jours. J'ai eu un premier contact et puis un deuxième. Et après, on enregistrait le générique. Ça s'est fait très vite.
Et alors, je crois que c'est un enregistrement qui, en plus de s'être fait rapidement, était entouré un peu de mystère. Il faut que vous nous racontiez.
Ouais, c'était assez drôle parce que, bon, déjà, l'émission en elle-même était un mystère. C'est-à-dire qu'on ne devait parler à personne de ce qu'on avait fait par rapport à ce générique. Moi, je sais qu'on dit des prénoms dans le générique. Je me souviens de ça, les prénoms des candidats. J'ai dû en enregistrer 10 de plus. Qui évidemment n'ont jamais participé à l'émission. Je pense que c'était pour brouiller les pistes. Et à la fin de l'enregistrement, qui s'est fait en plusieurs fois, parce que je suis revenu plusieurs fois, parce que le générique a changé, a évolué en une semaine. C'est vraiment quelque chose de très très bien préparé.
Et alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous mettre dans la confidence, mais du coup sans risquer d'ébruiter cette nouvelle?
Ah bon, on nous dit surtout de ne rien dire à personne. On nous fait signer des clauses de confidentialité avec nos contrats. Et non, c'est quelque chose de très sérieux. Donc ça fait un petit peu peur, évidemment. Mais on se dit, oh là là, ça doit être quelque chose d'incroyable. Mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Après, j'ai compris.
Voilà, finalement, le contenu, vous le découvrez comme tout le monde. Le 26 avril au soir, devant la télé, l'adaptation de cette émission, le Love Story à la française.
Ah oui. Alors, non seulement j'en découvre le contenu, j'en découvre plus ou moins le concept, et puis je découvre aussi le nom des protagonistes, les vrais, ceux que j'ai enregistrés, ouais. Et je découvre que la plupart...
Les Christophe, les Loana, les Stevie.
Voilà, les Stevie, et je découvre aussi des images, parce que quand on a enregistré le générique, évidemment, moi je n'avais pas d'image des candidats, forcément, puisqu'il fallait que le secret soit gardé jusqu'au bout. Donc les images bien étaient sûr. Floutées, et avec des grandes croix dessus, je me souviens, pour ne rien dire, enfin c'était quelque chose d'incroyable, hein, vraiment.
Secret défense quasiment. Ça a été une déferlante, hein, le Loft à l'époque. Meilleures audiences de l'année 2001 pour M6, jusqu'à 11 millions de téléspectateurs certains soirs. C'est un score de match de foot. Et c'est une révolution, alors pas forcément pour le meilleur, mais ça a enclenché, quoi qu'on en dise, un changement indéniable dans la télévision française, Jean-Marc Lancelot.
Mais complètement. C'est-à-dire que cette émission, moi j'ai l'impression qu'à l'époque, que tout le monde la voulait, mais personne n'osait. La produire.
Le PDG de TF1, Patrick Lelay, concurrent d'M6, avait même publié une tribune dans Le Monde en accusant M6 de faire, je cite, de la trash TV, de la télé poubelle. En fait, il l'avait mauvaise parce qu'il était perdant dans les audiences.
Exactement. C'est-à-dire que M6 avait tout à gagner, je pense, à prendre ce concept. Et c'est grâce à cette émission, je pense, que cette petite chaîne qu'on disait de cette petite chaîne est devenue la petite chaîne qui monte. Enfin, j'imagine que tout est parti de là et que cette émission a fait le plus grand bien à la 6e chaîne. Oui.
Et aujourd'hui, il y a de la télé-réalité un peu partout. Hein. Les Anges, mais même Koh-Lanta, Top Chef, à des degrés divers, la télé-réalité est un peu sur toutes les chaînes aujourd'hui. Je reviens sur le concept de Love Story. 11 célibataires filmés 24 heures sur 24 dans une maison pendant 10 jours, coupés du monde, sans autre grand intérêt que leurs disputes, leurs histoires d'amour, si on peut appeler ça comme ça. On ne va pas revenir sur le fameux épisode de la piscine. Vous, quand vous voyez la première émission, Jean-Marc Lancelot, qu'est-ce que vous vous dites?
Je me dis d'abord que je trouve l'émission très très longue. Très longue, parce que tout était distillé par Benjamin Castaldi. Il fallait que l'émission soit la plus longue possible. Je crois qu'elle était en deux parties, c'est-à-dire qu'on faisait rentrer un par un les gens dans le Loft, si ma mémoire est bonne. Et une fois que tout le monde était rentré, M6 devait diffuser, je sais pas, un téléfilm ou un autre programme, et on revenait après le programme pour suivre les premiers émois et la découverte du Loft par les candidats, et ça s'est poursuivi jusqu'à je sais plus quelle heure dans la nuit. Et puis je me souviens aussi qu'il y avait une chaîne dédiée sur le câble et le satellite.
Sur TPS, oui, où les gens pouvaient regarder les caméras en temps réel toute la journée, c'était pas coupé.
Au départ, c'était 24 heures sur 24, et puis le CSA, je crois me souvenir aussi que le CSA avait mis le holà en disant « Attendez, on va quand même leur laisser 2 heures de répit, et vous ne pourrez les filmer que 22 heures sur 24 », ce qui était déjà énorme, mais voilà, je me souviens de ça aussi.
Ouais. 20 ans après, il y a eu des retrouvailles sur la chaîne C8 cette fois-ci. Récemment, vous avez été contacté à nouveau.
Oui, c'était, ils m'ont contacté, je trouvais ça plutôt drôle, pour faire le lancement, on appelle ça un pré-générique, le lancement de l'émission, un petit peu avec le même ton de l'époque. Et j'ai trouvé ça, je me suis beaucoup amusé à faire ça, oui.
Finalement, vous êtes-vous aussi une part de cette émission que les spectateurs connaissent sans connaître ? Est-ce que vous avez été invité à ces retrouvailles ? Est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer certains des lofters ?
Eh bien, je n'ai jamais rencontré personne. Je n'ai pas été invité. Bon, là, c'était un peu compliqué aussi. Mais je n'ai franchement jamais rencontré aucun candidat.
Est-ce que vous aimeriez ?
Pourquoi pas si un candidat venait me voir un jour en me disant je suis content parce que c'est vous, oui, ça me ferait plaisir, bien sûr, mais je cours pas après, non, bien sûr que non. Non, non, non.
Merci en tout cas, Jean-Marc Lancelot, comédien voix off et donc voix du générique de Love Story, première émission de télé-réalité en France il y a 20 ans tout juste. Merci d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu ce matin. Bonne journée.
Merci Théo. Au revoir.
Vous informe sur Europe 1.
À 6h23, l'essentiel de l'actualité. Emmanuel Macron qui entrouvre la porte à un assouplissement du couvre-feu. 19h, c'est trop tôt, a reconnu hier le chef de l'État auprès d'une écolière. En parallèle, le nombre de malades du Covid en réanimation est repassé au-dessus des 6000. C'est une première depuis un an. L'Union européenne attaque AstraZeneca en justice pour ses retards de livraison. Le laboratoire suédo-britannique n'a livré qu'un quart des doses promises aux pays de l'UE au premier trimestre. 17 migrants ont été retrouvés morts sur un bateau au large des îles Canaries. 3 hommes ont pu être sauvés, évacués par hélicoptère. Et puis l'hommage hier soir à la policière assassinée à Rambouillet vendredi dernier. 1 millier de personnes se sont rassemblées devant le commissariat de la ville, en présence notamment du ministre de l'Intérieur. Votre 5-7 se poursuit en musique avec le rappeur américain Tupac qui arrive dans la partition d'Omblin Rush dans quelques secondes.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Le président de la commission cyber-risque du club des juristes, Bernard Spitz, est donc avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Dans votre rapport publié et qu'Europe 1 dévoile en exclusivité, ce chiffre qui donne le ton, si le piratage informatique était un pays, il représenterait autant que la troisième économie mondiale derrière les États-Unis et la Chine, 6000 milliards de dollars. Comment on rivalise, Bernard Spitz, à l'échelle d'un pays comme la France, contre une telle puissance ?
D'abord en étant bon techniquement, ce qui est le cas. La France dispose objectivement de spécialistes dans tous ces domaines, que ce soit des entreprises qui développent des systèmes de protection, que ce soit la qualité des gens qui travaillent là-dessus. Ensuite, comment rivaliser, enfin, c'est comment être à la taille critique pour affronter ce danger et c'est qui va aller croissant, car vous pouvez faire tous les chiffres que vous voulez. Il y a une croissance exponentielle. Le nombre de cas se multiplie par 2, 3, 4 chaque année. Et ça va aller croissant.
Ça veut dire donc, plus de moyens d'enquêteurs dans la justice.
Plus de moyens. Alors le gouvernement a annoncé un plan en février dernier qui montre qu'il est conscient de la priorité. Et ça c'est très important, 1 milliard d'euros. Mais il est clair qu'il faut qu'on travaille beaucoup sur le plan européen. Car c'est à travers le partage des compétences, des données, des moyens entre les différentes, entre les différents pays, entre les différents services, qu'on arrivera à le mieux possible à combattre ça. Et c'est aussi, et c'est le but du rapport, faire de la prévention. Parce qu'à la fois, il faut sanctionner, il faut se donner les moyens de contrôler, de faire la police et d'intervenir, mais il faut aussi essayer d'empêcher que ça arrive et donc de faire prendre conscience aux individus, aux entreprises, éventuellement aux États qui négligeraient la chose, qu'il y a là un danger de souveraineté majeur, un enjeu de sécurité majeur et qu'il faut donc se donner les moyens de le combattre.
90% des entreprises en France ont déjà été impactées par une cyberattaque l'année dernière. La moitié sont des PME. Qu'est-ce que ça veut dire ? Formation insuffisante à la fois des salariés, de monsieur et madame tout le monde, mais aussi des responsables sécurité ?
Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord que nous vivons... Alors vous voyez, on parle toujours sur cette antenne comme ailleurs, et parce que c'est notre vie, hélas, à nous tous depuis un an. On parle du virus de la Covid-19.
Du virus sanitaire, pas du virus informatique.
Oui, mais vous voyez, on retrouve le mot virus dans les deux cas.
C'est-à-dire la situation est liée.
Il y a d'abord le fait qu'il y a là une espèce de danger rampant qui se répand, qui se multiplie et qui va croissant. Alors les deux sont liés, oui, d'une certaine façon, car l'une des principales conséquences de la Covid, c'est la multiplication du travail à distance, donc la numérisation de l'activité. Vous avez par exemple ce système Zoom qui permet aux gens de faire de l'interactivité.
C'est des portes ouvertes en plus pour les pirates.
C'est autant de portes ouvertes, mais regardez l'explosion que ça a été. Zoom, c'était 12 millions de gens qui quotidiennement allaient dessus à la fin de l'année dernière. Deux mois après, trois mois après, en mars, c'était 200 millions. Donc c'est dans cet univers de communication numérique, ça crée, où toutes les données passent, où l'activité numérique explose, et bien évidemment, c'est un terrain de chasse formidable. Mais il ne faut pas croire que les deux sont liés, au sens que lorsqu'on aura convaincu le coronavirus, on aura vaincu la criminalité, la cybercriminalité.
Le télétravail va rester et il faudra
non seulement
une sécurité renforcée.
Mais toute la numérisation du monde. Et donc, bien évidemment, c'est un sujet qui est probablement l'un des facteurs de risque les plus importants à l'échelle mondiale.
Parce que les réseaux en face sont extrêmement organisés, on a affaire à des groupes qui ressemblent à du crime organisé, c'est ce que vous dites
c'est
dans ce rapport,
que ça y
qui sont du crime
ça
organisé.
Ça en est avec toutes les dimensions, c'est-à-dire vous avez les petites frappes qui font qui vont vous faire essayer de confisquer les données et puis de faire une espèce de petit chantage, c'est ce qu'on appelle
le ransomware.
C'est de la rançon, on vous bloque vos données et pour que vous puissiez vous les réutiliser, ce qui d'ailleurs est rarement le cas, il faut que vous payiez. Mais vous avez aussi des choses extraordinairement complexes, des groupes très organisés, parfois même des États. Hein. Il y a des États voyous qui n'hésitent pas à ça parce que les enjeux sont énormes, parce que la donnée est aujourd'hui la richesse du XXIe siècle.
Alors face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous le disiez, Emmanuel Macron a annoncé un plan le 18 février, 1 milliard d'euros dédié à la cause. Je redonne les grandes lignes, création d'un campus spécialisé à la France, à la Défense, pour que la France développe ses propres solutions. Qu'est-ce que vous préconisez dans ce rapport?
Donc c'est important parce que ce que ça veut dire, c'est que c'est bien d'avoir tous les instruments de riposte à condition qu'ils fonctionnent bien entre eux. Et donc, vous avez un pays comme Israël où vous avez une espèce d'alignement de tout le monde. L'industrie, la recherche, l'université, l'armée, etc.
Vous demandez notamment plus de moyens, plus d'agents spécialisés dans la justice.
Alors, il faut une fois que tous les moyens existants travaillent du mieux possible entre eux, et ça, c'est l'idée du campus, qui travaillent le mieux possible à l'international, ça, c'est une action internationale. Et puis, il faut aussi des moyens, oui. On a des gens très performants, mais enfin, ils n'ont pas encore ni les moyens humains, ni les moyens matériels d'aller au bout. Et donc, il y a une partie de ce plan qui est consacré à ça, mais bien sûr qu'il va falloir augmenter les moyens humains et au niveau de la justice,
créer une filière
police.
De cybermagistrats, qu'est-ce que ça voudrait dire par exemple?
Ça veut dire, il y a aujourd'hui au sein du parquet une filière spécialisée, mais elle est composée de peu de gens, il faut en augmenter les moyens, en augmenter la capacité, et ça c'est quelque chose qui va aller sans cesse croissant, parce que les progrès du numérique entraînent les progrès de la cybercriminalité, il faut donc parallèlement il y ait les progrès des moyens de lutte contre elle.
De vous demander aussi au gouvernement de lancer plus de campagnes d'information, de sensibilisation, c'est vraiment le nerf de la guerre, ça aussi, la sécurité, c'est l'affaire de chacun d'entre nous.
Oui, c'est pas que le gouvernement, c'est tout le monde, c'est-à-dire justement un rapport comme celui-là, je pense que tout l'écosystème qui va du MEDEF aux différentes organisations, aux fédérations, et je pense notamment à l'assurance, puisque j'en étais le président, mais surtout l'assurance, c'est le moyen de sensibiliser les entreprises. Vous savez, chez vous, les gens ont compris que c'était mieux d'abord de ne pas laisser les fenêtres ouvertes, ensuite de mettre des portes blindées, etc. C'est exactement la même chose. Et il faut savoir que ce sont beaucoup d'erreurs humaines ou de manque d'attention qui provoquent les brèches qui permettent ensuite, dans des entreprises, dans des PME ou dans des foyers, à des pirates de s'infiltrer.
S'assurer, porter plainte et ensuite, de l'autre côté, renforcer l'arsenal juridique et plus de bras au sein de la justice, des cybermagistrats, un pôle cyber au niveau du parquet de Paris. Voilà quelques-unes des pistes, des recommandations qui sont dans votre rapport, Bernard Spitz. Une cyberattaque toutes les 14 secondes dans le monde. Un secteur qui pèse autant d'argent que la troisième puissance mondiale. Et la France qui s'arme pour faire face, mais qui doit mieux faire, si je vous ai bien entendu. Merci beaucoup, Bernard Spitz, d'être venu nous détailler ce rapport du Club des juristes sur le cyber-risque sur Europe 1. Très bonne journée, merci d'avoir été en direct.
Europe 1.
À suivre, l'innovation du jour arrive dans votre 5-7 avec Anissé Mbida. A tout de suite.
Vous informe sur Europe 1.
L'essentiel à 6h10, plus de limite d'âge pour les tests antigéniques et les autotests. La Haute Autorité de Santé les autorise pour les moins de 15 ans. Rapides, moins invasifs, ils sont pertinents pour briser les chaînes de contamination, notamment à l'école, explique la HAS. Et concernant les chiffres de l'épidémie en France, le nombre de malades du Covid en réanimation est repassé au-dessus des 6000, une barre dont il était proche depuis une dizaine de jours et qui n'avait plus été dépassée depuis un an, selon Santé publique France. L'appel du milliardaire François Pinault pour son sauver le club de foot de Bordeaux. Dans une lettre ouverte, il demande aux propriétaires de grands crus bordelais de se mobiliser pour sauver le club girondin lâché la semaine dernière par son propriétaire américain.
Europe 1, Théo Manval.
L'innovation du jour, à présent, avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Théo Manval.
Votre innovation aujourd'hui pourrait contribuer à créer une mode à la fois éthique et écologique. Vous nous parlez, Anissé, de la première fausse fourrure 100% végétale.
Oui, la fourrure qui a toujours été associée au luxe et à la mode. Le problème, c'est que depuis le début des années 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez des campagnes plutôt nues qu'en fourrure, eh bien la plupart des couturiers se sont rabattus sur de la fausse fourrure. Or là, nouveau problème, il se trouve que cette fausse fourrure est conçue en fibre synthétique, donc à base de dérivés de plastique et de pétrole. Donc après la cause animale, c'est maintenant la cause écologique qui pourrait donner un nouveau coup d'arrêt à la fourrure, alors que c'est une matière que les fashionistas adorent, hein, à la fois pour son style et pour sa douceur. Eh bien cette fausse fourrure 100% végétale pourrait enfin réconcilier tout le monde.
100% végétale, elle est faite avec quoi exactement?
Avec des fibres de chanvre mélangées avec de la viscose qui est issue de la pulpe de bois. Ça donne un aspect extrêmement brut, hein, qui ressemble à de la peau de mouton. En plus, le tissage reproduit les textures des fourrures animales. Donc, il y a un poil très très court pour conserver la chaleur. Il y a un poil beaucoup plus long qui crée une couche isolante et qui empêche d'être réchauffé par le soleil. Donc, on retrouve la douceur, le moelleux, la respirabilité sur le côté moquette, l'électricité statique des produits synthétiques. C'est une création ukrainienne de la start-up Devo Home.
Et il n'y a pas de risque écologique avec le chanvre?
Non, pas trop, parce que c'est une culture qui a besoin de très peu d'eau et qui se passe facilement de pesticides. Vous savez, jusqu'au 19e siècle, la majorité des textiles et des cordages étaient faits à base de chanvre. Même les premiers jeans de Levi's étaient en chanvre. C'est qu'au 20e siècle qu'on a basculé sur du coton et sur du synthétique. Donc on pourrait refaire des vêtements en chanvre, on pourrait refaire son apparition. D'autant qu'en France, la France est le deuxième producteur mondial de chanvre industriel. Hein. Chanvre industriel, hein, pas de cannabis.
La fourrure du futur sera donc en chanvre. C'est ce qu'on retient de l'innovation du jour. Merci beaucoup Anissé Mbida. À demain. Ils sont nos yeux et nos oreilles sur tous les continents à 6h52. Les correspondants d'Europe 1 nous attendent pour votre revue de presse internationale. Et on commence en Angleterre ce matin avec vous Anaïs Cordoba. Bonjour.
Bonjour Théo.
Qu'est-ce qui fait la une à Londres ?
Eh bien, la presse britannique revient sur la polémique autour des propos que Boris Johnson aurait tenus en octobre dernier, avant le deuxième confinement. Il est accusé par des sources anonymes citées par plusieurs journaux d'avoir dit « Fini les confinements, les corps n'ont qu'à s'empiler par milliers ». Boris Johnson nie ses propos, mais selon The Spectator, il a bien prononcé ces mots lors d'un accès de rage dans son bureau après avoir pris la décision à reculons de confiner une deuxième fois. Selon le site de la BBC qui affirme que la scène a bien eu lieu, à ce moment-là, le Premier ministre était très préoccupé des répercussions sur l'économie. La pression monte sur Boris Johnson, titre Le Guardian, qui cite l'association des familles de victimes du Covid qui parle d'un coup de poing dans le ventre, des familles qui ont posté des photos de leurs proches décédés sur les réseaux sociaux avec ce commentaire « Ce ne sont pas des corps ».
Anaïs Cordoba, correspondante Europe 1 à Londres. Direction maintenant les États-Unis où nous attend Alexis Guilleux. Bonjour Alexis.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui fait les grands titres chez vous ?
Eh bien, le retour des touristes américains en Europe, l'Union européenne s'apprête à laisser venir les Américains vaccinés cet été, titre le New York Times qui a interrogé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Business Insider remarque le changement par rapport aux politiques en vigueur depuis un an. Même lorsque les frontières de l'Union ont été partiellement ouvertes l'été dernier, les Américains ne pouvaient pas y voyager. Une manne tombée du ciel pour le secteur touristique européen, selon le Washington Post. On estime qu'environ 15 millions d'Américains se rendaient en Europe chaque année avant la pandémie. Alors il y a tout de même des questions qui se posent. Ursula von der Leyen n'a donné ni calendrier précis ni les modalités de cette reprise des voyages, souligne CNN. Car les États membres auront le dernier mot, explique Politico. La Grèce, par exemple, autorise déjà sur son territoire les touristes américains vaccinés ou en possession d'un test négatif.
Alexis Guilleux, correspondant Europe 1 à New York. On termine ce tour du monde en Côte d'Ivoire. On le retrouve, François Hume. Bonjour François.
Bonjour Théo.
De quoi parlent les journaux ce matin à Abidjan ?
De cette mesure drastique prise par les autorités ivoiriennes, les inspecteurs chargés de faire passer le permis de conduire sont suspendus de leurs fonctions, indique cette info. Ils seront remplacés temporairement par des gendarmes. La raison, de nombreux dysfonctionnements liés à la fraude et à la corruption, écrit Abidjan.net. Le gouvernement ivoirien entend désormais lutter contre une pratique courante. Le jour de l'examen, le candidat remet une enveloppe de billets à l'inspecteur contre la certitude d'obtenir l'indispensable permis de conduire, un examen qui dure alors à peine quelques minutes. Mais à partir du 3 mai et pendant trois mois. Seules les forces de l'ordre seront habilitées à remettre le précieux sésame. Le temps pour le gouvernement d'achever la phase cruciale de la réforme des 10 examens, explique Kouassi. Une mesure qui sert à sauver des vies et à conserver la crédibilité du permis de conduire ivoirien, indique aussi le site d'information.
François Hume en Côte d'Ivoire pour Europe 1. C'est bon, tous les matins avant 7h. Il est 6h55, la météo et le journal arrivent dans quelques secondes. Mathieu Béliard s'installe pour le 7-9. À tout de suite. Il est 6h57, très bon réveil. Merci à tous de nous avoir suivis depuis 5h. Voici Mathieu Béliard qui vous accompagne jusqu'à 9h. Bonjour Mathieu.
Bonjour Théo Manval. Vous avez dit très beau réveil ou très bon réveil?
Les deux, c'est bien. Ah,
j'aime bien très beau
ça
réveil.
Ça peut être un beau
aussi.
Réveil.
Ouais, ça change. Un beau réveil à toutes et à tous. Merci Théo d'avoir réveillé nos auditeurs depuis 5h ce matin. Lundi, non, mardi. Ça y est, la semaine avance, mardi 27 avril 2021. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Le monde a changé, on va vous le raconter. Ce sont nos carrières qui ont bien changé et qui vont changer. Fini la perspective de 40 ans avec le même emploi au même endroit. Savez-vous que les enfants qui entrent à l'école maternelle aujourd'hui changeront de métier près de 9 fois dans leur vie professionnelle future? On va tous changer de métier et plusieurs fois. Et c'est de cet enjeu dont nous allons parler ce matin avec mon invité à 7h40, Isabelle Rouen, présidente de l'Observatoire des métiers du futur. Hier matin, Sonia Mabrouk recevait Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et écoutez ce qu'il disait de certains salariés de l'industrie automobile.
Nous allons nous intéresser en particulier aux fonderies. Pourquoi ? Parce que les fonderies, c'est 15 000 emplois. Parce que les moteurs électriques consomment beaucoup moins de fonte ou d'aluminium que les moteurs électriques. Et donc ces emplois, ils sont clairement menacés.
Reconversion, adaptation à l'économie de l'après-pandémie pour tout de suite, mais au changement climatique pour plus longtemps, à l'avènement de l'intelligence artificielle. On va aller plus loin ce matin. Quels seront les métiers de demain? Lesquels vont disparaître? Lesquels ne sont pas encore inventés? L'automatisation, le numérique, ces enjeux nous concernent tous, nos enfants encore plus. Et si le vrai métier de demain, ce n'était pas plutôt DRH? Isabelle Rouen, 7h40, le tête-à-tête Europe Matin. Voilà quelques éléments du programme. 6h59, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo. Bonjour Laurent.
Salut Mathieu. Oui, nous allons vivre une journée très aléatoire dans les régions du sud, comme ce fut le cas hier, puisque le sud a changé de temps. La moitié nord reste sous le soleil, restera sous le soleil, mais avec quand même des aléas qui vont se profiler dans les jours qui viennent. Mais sur la moitié sud, le temps maintenant a vraiment changé. Alors sur le Béarn, le Midi-Pyrénées, les Landes, le bassin méditerranéen et le Vaucluse, nous aurons de la pluie ce matin, nous en avons d'ailleurs. Elles vont ensuite s'espacer malheureusement parce qu'on en a besoin. Sur l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, tout le Massif central, la vallée du Rhône, la région Rhône-Alpes. Ça sera plutôt orageux, très nuageux, parfois orageux, de rares averses, bon. Et puis des régions ensoleillées, le littoral de la Manche, les régions qui bordent, Pays de la Loire, Centre, Bourgogne, Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, région parisienne, il fera beau, la Franche-Comté. Dans toutes ces contrées, l'ensoleillement sera là, l'ensoleillement avec un petit peu moins de vent, donc ce sera plus agréable. Les températures ce matin, attention, elles sont froides, hein. Certaines régions ont des gelées, Charleville, Épinal, Beauvais, Rouen, Cambrai, entre 0 et 2 degrés. Dans la journée, entre 17 et 21.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer.